Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin d'information francophone pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. « 169 cas positifs de la COVID-19 ont été déclarés jusqu'à maintenant au territoire du Nord-Ouest. Il s'agit de la plus importante éclosion depuis le début de la pandémie. La campagne électorale est officiellement déclenchée au pays. On vous présente la liste des candidats dans les différentes circonscriptions du Nord du Canada, du moins ceux qui ont été dévoilés jusqu'à maintenant. » L'audience de l'enquête sur le député de Toonaidé-Wildé, Steve Norne, débute le 4 octobre. Le public sera autorisé à y assister. Plusieurs centaines de résidents des collectivités ont convergé ce lundi à Bechokon pour le rassemblement annuel Clichon. Un fossile d'éponge trouvé au territoire du Nord-Ouest pourrait être la plus vieille preuve de vie animale sur Terre. Denis Laure en a discuté avec la géologue Elizabeth Turner, qui en a fait la découverte. Et finalement, Nelly Guidici nous parle de Anga Kuja Jojuk, un film d'animation réalisé et produit au Nunavut. Le territoire fait face à ses premiers cas de transmission communautaire. L'éclosion qui sévit dans la région du Satou prend de l'ampleur très rapidement. Thomas Chabot a suivi la situation de près. Il est avec nous pour nous donner les détails. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
D'abord, donc ça fait pas une semaine qu'on nous a annoncé cette éclosion et déjà c'est la plus importante qu'on ait connue jusqu'à présent là, depuis le début de la pandémie. Comment tout ça a commencé?
L'éclosion du Satou a été retracée et découle du tournoi de jeux de main qui s'est déroulé à Fort Good Hope du 5 au 9 août. Cette nouvelle, eh bien, a beaucoup tourné cette semaine. La santé publique qui qualifie d'ailleurs cet événement de super transmetteur. Et en réponse à la montée des cas, la santé publique, eh bien, a émis une ordonnance de confinement local pour les collectivités de Fort Good Hope ainsi que de Colville Lake. Et ce que ça change, eh bien, cette ordonnance de confinement local, c'est que toute personne étant passée dans l'une de ces deux collectivités entre le 5 et le 15 août doivent appliquer les mesures requises. Alors, les personnes de ces collectivités qui ne sont pas entièrement vaccinées doivent rester isolées pendant 10 jours, donc jusqu'au 25 août, et contacter le centre de santé pour effectuer un test de dépistage. Je disais le 25 août, mais en fait, 10 jours à la suite, eh bien, du dépistage. Mm-hmm. Et pour les personnes qui sont entièrement vaccinées, environ 73% du territoire présentement, il suffit de surveiller son état de santé, de faire de l'autosurveillance, comme la santé publique l'appelle, pour les 10 prochaines journées et de contacter par la suite le centre de santé en cas d'apparition de symptômes. Alors, pour présentement, c'est l'entièreté des résidents de Fort Good Hope et de Colville Lake qui sont considérés comme à risque d'avoir été en contact avec une personne infectée. Les commerces non essentiels, et ça inclut les écoles et les centres communautaires, devront fermer jusqu'au 25. Le port du masque à l'intérieur devient obligatoire et les rassemblements intérieurs ou extérieurs sont désormais interdits pour des personnes qui ne résident pas à la même adresse. En date de la dernière mise à jour qui nous a été fournie de la part de la santé publique, donc le 18 août à 18 heures, il y avait 129 cas actifs de COVID-19 au territoire du Nord-Ouest. Et sur ces 129 cas, 108 sont dans la région du Satou. Alors une forte majorité, 19 de ces cas sont à Yellowknife et le dernier est à Inuvik. Ce qui est préoccupant dans cette quatrième vague, car oui, c'est une quatrième vague, ça a été confirmé par la santé publique, c'est sa vitesse de propagation. En 5 jours, le nombre de cas totaux depuis le début de la pandémie a presque doublé, passant de 170 à plus de 300.
Donc, plus de 300 depuis le printemps 2020, depuis le début de la pandémie. On sait que l'épicentre de cette quatrième vague, c'est l'événement de jeu de main, de Hand Games de Fort Good Hope. Plusieurs autres lieux ont été ajoutés à la liste des notifications d'exposition dans les derniers jours. On parle du Satou, mais il y en a à Yellowknife également, Thomas.
Il y en a un peu partout, effectivement. Ce sont 21 lieux distincts dans 4 collectivités qui sont visées par ces avis d'exposition, certains pour plusieurs journées différentes. Des vols sont aussi considérés à risque. Je vous propose de vous nommer certains des lieux à Yellowknife et ailleurs qui sont considérés comme étant les plus à risque de transmission. Alors, il y a tout d'abord, eh bien, le Bingo Centre de l'Amitié Tree of Peace. Celui-ci, c'est un lieu fortement à risque. Alors, pour le 8, 10, 11, 12, 13 et 14 août de 16h à 21h, un fort risque. L'entièreté des compagnies de taxi de Yellowknife s'est considérée à faible risque du 9 août jusqu'à présentement. Walmart, le 8 août, le 9 août ainsi que le 11 août à diverses heures de l'après-midi, c'est à risque. Et le pub Black Knight, où plusieurs personnes ont pu se retrouver lors du vendredi 13, eh bien, il y a une notification d'exposition pour les soirées de vendredi, de samedi, ainsi que mardi le 10 août.
Bref, alors, bref Thomas, là, à Yellowknife, si vous étiez au bingo Centre d'amitié Tree of Peace, que vous avez pris le taxi, peu importe avec qui, là, que vous étiez au Walmart ou que vous étiez au pub Black Knight, dans les derniers jours, prenez pas de chance, allez voir les notifications d'exposition.
Oui, et on le rappelle, les notifications sont disponibles sur le site de la réponse du GTNO à la COVID-19 dans l'onglet notifications. C'est là que vous allez les trouver. Mais en dehors de Yellowknife, eh bien, Adeline, toute personne ayant été au centre culturel communautaire le 14 août est à risque. À Fort Goodhope, toute personne ayant participé au tournoi de jeu de main, eh bien, doit s'isoler obligatoirement, indépendamment de la situation vaccinale. À Norman Wells, la Légion, le 13 août ou le 14 août en soirée, vous êtes à risque. Et au-delà des lieux d'exposition, comme je vous le disais, plusieurs vols ont aussi été identifiés, notamment un vol de Norman Wells en direction d'Inuvik le 14 août, un vol d'Edmonton vers Yellowknife et finalement, tous les passagers de vol partant de Fort Goodhope ou de Colville Lake depuis le 5 août sont considérés comme étant à risque.
Et on sait également, Thomas, là, qu'en raison de cette éclosion, le Nunavut a suspendu la bulle de voyage avec les territoires du Nord-Ouest. Donc, les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées doivent suivre le protocole d'isolement, donc s'isoler avant de rentrer chez elles au Nunavut. Thomas Chabot, merci beaucoup pour cette mise à jour de la situation.
Je vous en prie.
C'est officiel, la campagne électorale est déclenchée, mais certains partis n'ont toujours pas présenté de candidats dans le nord du pays. Au territoire du Nord-Ouest, Michael McLeod briguera un troisième mandat pour les libéraux et c'est le natif de Bechocon, Kevin Cochila, qui représentera le NPD. Monsieur Cochila a présenté sa candidature en juin dernier pour devenir député de la circonscription de Manfoui, au territoire du Nord-Ouest. Il a été battu par Jane Wayallen Armstrong. En date du jeudi 19 août, en soirée, le Parti conservateur et le Parti vert n'avaient toujours pas dévoilé de candidats au territoire du Nord-Ouest. Au Nunavut, l'avocate Laurie Eadloot représentera le NPD. Cette dernière représentait l'hiver dernier le groupe de protestants qui ont bloqué l'accès à la mine Baffinland. Laura McKenzie, une femme native de Rankin Inlet, représentera le Parti conservateur. Le Parti libéral sera représenté par Pat Agnakak, qui est présentement député de l'Assemblée législative nunavoise. Les Verts n'ont toujours pas dévoilé de candidat dans la circonscription du Nunavut. Au Yukon, Brandon Hanley a démissionné de son poste d'administrateur en chef de la santé publique. Il se présentera sous la bannière libérale. Le NPD sera représenté par Lisa Volant-Leduc. Barbara Dunlop représentera le Parti conservateur. Lenore Morris sera candidate pour le Parti vert. Jonas Smith sera candidat indépendant au Yukon. Ce dernier devait représenter le Parti conservateur. Il a été éjecté le 12 août pour avoir affiché son opposition aux directives de la santé publique. Pour ce qui est du nord du Québec, ou plus précisément de la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-AU, Liz Kistabich se présente sous la bannière libérale. La députée Sylvie Bérubé tentera de garder son siège pour le Bloc québécois. Steve Corriveau se présente pour le Parti conservateur et Didier Pilon, âgé de 18 ans, se présente pour le Parti vert. Le public aura l'occasion d'assister à partir du 4 octobre aux audiences de l'enquête visant le député de Toonaidé-Wildaday, Steve Norne, qui fait l'objet d'une plainte pour enfreinte au code de conduite de l'Assemblée législative. M. Norne est accusé d'avoir brisé les protocoles d'auto-isolement en avril 2021. Dans un avis d'audience publié le 17 août, l'Assemblée législative lance également un appel au témoignage. Toute personne qui prétend avoir un intérêt direct et substantiel dans l'objet de l'enquête peut demander à l'arbitre unique d'être autorisé, au cours de cette enquête, à témoigner sur des éléments de preuve pertinents pour son intérêt. Les demandes de témoignage seront acceptées jusqu'au 14 septembre. L'enquête est menée par le juge Ronald Barclay, qui a été désigné comme arbitre unique pour étudier la plainte. Le juge Barclay devra déterminer si le député s'est bel et bien trouvé en infraction au code de conduite de l'Assemblée. Le cas échéant, il émettra des recommandations quant aux sanctions qui pourraient être imposées. Steve Norne s'est présenté dans le bâtiment de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest le 17 avril 2021, soit un jour avant la fin de sa période d'auto-isolement, qu'il avait entreprise au retour d'un voyage en Alberta. M. Norn a reçu 2 contraventions en vertu de la loi sur la santé publique pour ne pas avoir respecté ses conditions d'auto-isolement. Il a récemment plaidé non coupable à ces 2 accusations à la Cour territoriale par le biais de son avocat. En regard de ces allégations, le caucus de l'Assemblée législative a déposé une plainte le 4 avril au commissaire à l'intégrité des territoires du Nord-Ouest. Ce dernier a émis un rapport de 127 pages et ordonné qu'une enquête soit déclenchée et qu'elle soit menée par un arbitre unique. Des centaines de résidents étaient rassemblés le 16 août à Bechokon dans le cadre du rassemblement annuel Klitschon. Affluent des 4 collectivités de la région, les convives ont eu droit à une journée d'activité familiale organisée autour de la 5e Assemblée Klitschon. L'éclosion de COVID-19 qui s'est déclarée à la veille du rassemblement aura toutefois perturbé les plans pour le restant de la semaine, en forçant l'annulation de toutes les activités et le déplacement de l'Assemblée en format virtuel. Près de 200 personnes auront toutefois eu l'occasion d'assister le lundi 16 août à la première journée de l'Assemblée. Plus tard en soirée, selon les organisateurs, ils étaient près de 600 joueurs de bingo à être rassemblés au centre sportif de Bechokon avec leurs cartes. Il s'agissait de la première partie intérieure en bonne et due forme dans la région depuis la déclaration de l'état d'urgence au printemps 2020. De retour après une année de pause forcée, ce grand rassemblement annuel prenait cet été un sens particulier. On y présentait d'abord la dernière assemblée du gouvernement Klitschon actuel, dirigée depuis 4 ans par le grand chef George Mackenzie. Cette semaine sera également marquée le 22 août par le 100e anniversaire de la signature du traité 11 dans la région par le chef Monfouy. L'ancien député et ministre des Territoires du Nord-Ouest, Jackson Lafferty, était présent pour assister à l'Assemblée. À ses yeux, au-delà des affaires politiques qui sont discutées au courant de la semaine, le plus important demeure de rassembler les résidents des collectivités Klitschon.
Those are, I guess, part of being the Klitschon people, the gathering, and I think it makes a huge difference. The well-being of our people, and the trust of our ancestors, the canoers that came in, and so we need to promote more of a cultural way of life, our traditions that we've survived over the years, and we continue to carry that tradition for our younger generation. So. That's what we'll be sharing with our counterparts, whether it be GNWT, the feds.
Comme l'indique le politicien Jackson Lafferty, les rassemblements font partie de la culture Klitschon et du bien-être de ses résidents. Les collectivités doivent, selon lui, faire la promotion de leur manière de vivre et de leur culture et s'assurer de la transmettre aux jeunes générations. Un message que le gouvernement Klitschon doit partager à ses homologues des gouvernements territoriaux et fédéraux. Monsieur Lafferty n'a pas manqué de mentionner qu'une femme de 81 ans faisait partie cette année de l'expédition de canots entre Wati et Bechokon. Pour sa part, le grand chef Klitschon, George Mackenzie, voit cette semaine comme le début d'une nouvelle ère alors que s'achève un premier centenaire depuis la signature du traité 11 par le chef Monfouy en
1921. Self-government that we are, we got to get our young people ready to go into the future, into another 100 years. We got to think about that. The way, one of the biggest ways we got to think about that in the future is called Strong Black 2, where our young people, through a history, remain strong in their culture, language, on the land. And then the second part is Strong Black 2 is we have to know the modern world. We have to understand the European world. Our young people have to be as educated as possible, as educated as they can be, so they can be competitive in the 100 years from now.
Cette semaine, nous observons notre histoire, indique le grand chef Mackenzie. Qu'allons-nous faire pour les 100 prochaines années? Les jeunes doivent d'abord rester forts à travers l'histoire au sein de leur culture, de leur langue et de leur terre, souligne-t-il. Mais ils doivent également comprendre le monde d'aujourd'hui et la culture apportée par les Européens. Les jeunes d'aujourd'hui doivent s'éduquer autant que possible, affirme George Mackenzie, et former un peuple compétitif pour les 100 prochaines années. Un fossile d'éponge qui a été trouvé dans les monts Mackenzie près de Norman Wells serait la plus vieille preuve de vie animale sur Terre. Mon collègue Denis Laure s'est entretenu avec la chercheure qui a fait cette découverte. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Une nouvelle captivante, Denis, là, si on peut le dire comme ça, qui a fait le tour du monde.
Oui, absolument. La découverte a été faite par Elizabeth St. Turner, une géologue de l'Université Laurentienne à Sudbury. Elle a écrit un article dans une revue scientifique très réputée qui s'appelle Nature le 28 juillet. Dans les jours suivants, la nouvelle s'est répandue sur la planète, dans les médias non spécialisés aussi. J'ai appris que éponge en italien, ça se disait spongia. En russe, je ne peux pas vous le prononcer.
Non, on ne vous demandera pas ça, Denis. Donc, c'est quand même une nouvelle imposante. Et d'un autre côté, ce n'est pas la première découverte archéologique qu'on fait dans le Nord ou au territoire du Nord-Ouest. Qu'est-ce qui justifie toute cette couverture médiatique?
Mais c'est qu'avant la découverte de Mme Turner, une chercheuse qui a passé plusieurs décennies au TNO et au Nunavut, faut le souligner, la plus vieille trace de vie animale datait de 541 millions d'années. C'est en Chine, on trouvait les empreintes, imaginez-vous, on trouvait juste les empreintes d'un animal, mais pas le fossile de l'animal lui-même. Or, le fossile d'éponge de la Dr. Turner daterait de 891 millions d'années. Donc, c'est 350 millions d'années avant la découverte des pas de cet animal-là en Chine. La découverte viendrait combler un trou dans la chaîne évolutive qui était identifié comme le dilemme de Darwin, donc le passage d'une forme de vie simple, sans squelette et sans os, à des formes de vie complexes et diversifiées.
Et donc, on dit toujours que ça serait la plus vieille forme de vie animale, Denis. On n'a pas vraiment la certitude encore qu'il s'agit véritablement d'un fossile d'éponge.
Non, effectivement, il n'y a pas de certitude absolue. Dans la même édition de la revue Nature, où la Dr. Turner publiait le résultat de ses recherches, il y a une géoscientifique de l'Université d'Édimbourg qui s'appelle Rachel Wood, qui était citée comme disant que le cristal et les microbes peuvent produire des formes comme celles que le Dr. Turner attribue à une éponge. Elle-même, Mme Turner, elle n'a pas la conviction totale de dire que c'était une éponge. Elle s'attendait à ce qu'il y ait une contestation de ses analyses. En entrevue, elle me dit qu'elle arrive avec une interprétation logique de ce que c'est probablement. Elle dit « il y a des évidences, voici la meilleure interprétation que moi je peux faire et maintenant je partage ça avec la communauté scientifique pour qu'on en discute ». Pour elle, c'est clair qu'il reste des étapes à franchir avant qu'on puisse lever tous les doutes sur sa découverte. Si vous voulez, on l'écoute parler du travail qui reste à venir.
Premièrement, il faut que je fasse quelques études à la microscope pour décrire les évidences microscopiques en plus de détails et le publier. Il faut que je décris les roches sédimentaires que je trouve ces éponges possibles en plus de détails.
Donc, en entrevue, Mme Turner a ajouté que pour aller au bout de sa découverte, ça va prendre des discussions dans le milieu scientifique et aussi d'autres travails sur le terrain avec des investissements importants, mais pourtant sans garantie de résultat.
Parfait. Bien, une histoire de très vieille éponge ténoise, c'est à lire dans l'édition de L'Aquilon de cette semaine. Denis Laure, merci beaucoup.
Merci Thomas, au revoir.
Anga Kuza Jojuk de Shaman's Apprentice ou L'Apprenti Chaman, film d'animation inuit produit et réalisé au Nunavut. Ce film a été récompensé au Festival international du film d'animation d'Annecy en France. Pour nous en parler, j'ai Nelly Guédissi au bout du fil. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
Nelly, on doit ce film à Zacharias Kounouk, un réalisateur de renommée internationale. Le film se passe au Nunavut et le réalisateur est vraiment allé puiser dans la richesse des contes traditionnels inuits, Nelly.
Alors, ce film est destiné à un public large, donc un public jeune, un public moins jeune. Et l'apprenti chaman est inspiré d'un conte traditionnel inuit du nord de la région Baffin. C'est sous les traits d'une jeune apprentie chamane que le film prend vie. Et cette jeune apprentie doit faire face au monde des esprits tout en suivant les enseignements de sa grand-mère, elle-même chamane, qui la guide pendant ce voyage spirituel. Finalement, c'est tout un pan de la cosmologie inuit qui prend vie finalement à l'écran.
Parfait. Donc, vraiment un produit inuit, là, si on peut parler comme ça, un produit du Nord. Ce film, c'est le fruit d'une collaboration entre deux maisons de production nunavoises. Et Nelly, vous avez pu parler au producteur Neil Christopher.
Oui, alors c'est une première en fait. C'est pour la première fois, ces deux maisons de production se sont associées. C'est la maison de production Takut à Iqaluit et Kingulit à Igloolik. Le projet a réuni au total une centaine de personnes qui ont travaillé pendant 2 ans sur ce projet. Neil Christopher, qui travaille à la maison de production Tagout, est l'un des producteurs. Et lui, il se déclare vraiment chanceux d'avoir pu collaborer avec le directeur Zacharias Kounouk, qui, comme vous l'avez dit, Thomas, est largement reconnu dans le monde du cinéma international, puisque son film Atan Arjuat, la légende de l'homme rapide, avait été récompensé au Festival de Cannes en 2001.
Film qui avait connu un grand succès. Et pour ce qui est de Anga Kuza Jojuk, Nelly, quand est-ce qu'on peut voir ça?
Alors, le calendrier de diffusion n'est pas encore finalisé, même si M. Christopher m'a indiqué par téléphone qu'il souhaitait faire une tournée dans le Nord, notamment à Yellowknife et au Nunavut également. Donc, le calendrier n'est pas finalisé, on n'en sait pas plus sur des dates éventuelles de projection. Par contre, ce film d'animation a été sélectionné au Festival international du film de Toronto en septembre prochain.
Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de cinéma d'animation qui ont très hâte de voir ça. Nelly Guedessi, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Média Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.